En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
La conscience humaine, dont la véritable nature demeure encore inconnue, est au cœur des réflexions de cette deuxième journée de colloque organisée par l'association Être Humain et avec le concours de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques. Ces réflexions peuvent être inhérentes à plusieurs domaines qui vont de la science à la philosophie en passant par la théologie. Canal Académie vous propose d'écouter ce deuxième colloque portant sur les états modifiés de conscience. 6 conférences au total sont retransmises sur notre site. Pour commencer, retrouvez dès maintenant l'intervention de Bertrand Méheux, historien, sociologue et philosophe, membre du comité directeur de l'IMI, l'Institut Métapsychique International. Il s'intéresse aux états modifiés de conscience et aux phénomènes paranormaux dans l'histoire sous le regard de la métapsychique. En préambule, retrouvez Bérénice Tournafond, présidente de l'association Être Humain. Elle va vous indiquer les thématiques qui seront abordées lors de ce colloque. À sa suite, Jean Béchler, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, va vous présenter les différentes thématiques qui seront abordées par les intervenants de ce colloque.
Tout d'abord, je souhaite adresser de très vifs remerciements au professeur François Gros, professeur François Théré, Pierre Buzer, Jean Béchler, ainsi qu'à tous les participants qui ont contribué et qui contribuent encore aujourd'hui à la réussite de nos colloques. Merci également à l'Académie des sciences et à l'Académie des sciences morales et politiques, grâce à qui nous pouvons organiser au sein de l'Institut ces colloques interacadémiques. Merci à Canal Académie, qui est notre partenaire, qui rediffuse donc sur Internet une partie des interventions. Et enfin, merci à tous les bénévoles qui nous aident et à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, notamment sur Internet. Voilà, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui viennent pour la première fois, je rappellerai en deux mots la raison d'être de notre association et les objectifs que nous poursuivons. Donc tout d'abord, l'association Être Humain est une association loi de 1901, sans but lucratif, que nous avons créée avec le professeur François Gros et le professeur François Théré en 2010. L'objet de cette association est de favoriser les échanges interdisciplinaires et les recherches sur les questions fondamentales qui concernent l'être humain, notamment celle-ci, par exemple, quelle est notre véritable nature, comment naissent nos émotions et quelles sont leurs incidences sur nos comportements, que sait-on des liens qui font interagir spiritualité et matérialité. Si nous avons créé cette association, c'est parce que nous pensons que cette démarche interdisciplinaire peut nous aider à dessiner une vision globale et intégrée de ce que nous sommes. C'est donc un moyen, un outil pour parvenir à une meilleure compréhension de l'homme avec pour objectif de favoriser échange et dialogue et par conséquent d'accéder à une meilleure gouvernance de la société. Dans ce contexte, nous avons déjà organisé un certain nombre de conférences, notamment un cycle de colloques sur l'homme contemporain à travers la science, la morale et la politique. Il a beaucoup été question des émotions, qui est un sujet interdisciplinaire par nature, puisque, au même titre que la conscience, les émotions se trouvent au confluent de toutes les disciplines, la biologie, la médecine, la théologie, la philosophie, le droit, etc. Chacun dans son domaine s'y intéresse, mais aucune spécialité prise isolément ne peut les expliquer entièrement. Et malheureusement, il nous manque une science des interactions pour mieux les connaître. D'où l'importance d'avoir ces échanges et d'essayer de dégager une vision globale, intégrative si l'on peut dire, de l'être humain. D'autant que, comme nous l'avons vu précédemment, il y a une corrélation certaine, une interaction évidente entre ce que nous ressentons, les émotions que nous éprouvons au contact de la société, la conscience que nous en avons et notre équilibre physique et psychique. En effet, nous savons désormais de plus en plus précisément d'ailleurs à quel point nos émotions et nos comportements sont interdépendants de notre constitution physique et de notre environnement extérieur. Mieux connaître ces émotions est donc essentiel, puisqu'elles agissent sur nous dans tous les domaines de notre vie. Ce sont parfois elles qui nous rendent malades. Elles commandent aussi nos choix ou nos absences de choix, comme on a pu le voir à l'occasion de l'élection présidentielle. Elles peuvent unir ou séparer, créer ou anéantir et épanouir ou dégrader. Il en va de même de la conscience. Elle est étudiée et se manifeste dans tous les domaines, mais sa véritable nature et l'ensemble de ses manifestations ne sont encore en grande partie inconnues. L'enjeu est donc capital, tant sur un plan individuel, puisque cela concerne notre santé, que sur le plan collectif, social. Nous en avons déjà parlé lors des précédents colloques. Les émotions et les états de conscience modifiés peuvent en effet provoquer des changements très importants dans nos comportements sociaux. Ils peuvent transformer notre vision du monde et de la société et remettre fondamentalement en question nos modèles politiques et sociaux. Ne serait-ce que parce que tous ces modèles sont fondés sur une idée de l'homme et une vision du monde qui dépend justement en grande partie de nos émotions et de notre conscience. Et à mon sens, il nous est plus possible de refuser de prendre en compte cette dimension immatérielle au niveau politique et social, tant elle est déterminante. Or, nous la connaissons encore très mal. Et pourtant, il nous faut la guider, la canaliser. Par conséquent, mieux comprendre, mieux connaître les interactions entre matérialité et spiritualité nous permettrait d'imaginer de nouveaux modèles de société qui prendraient mieux en compte la nature humaine dans sa complexité. Cela permettrait également de dépasser les oppositions parfois violentes aujourd'hui entre ceux qui croient que la conscience est en partie une manifestation de la divinité et ceux qui croient que la conscience n'est qu'une manifestation du fonctionnement du cerveau ou plus largement du corps humain. Ce qui d'ailleurs laisse entière la question de savoir comment on peut parvenir aux résultats que l'on constate par certains états modifiés de conscience. Lors de la première partie de ce cycle, dans sa conférence, le professeur Jean Béchler a très clairement montré qu'il était très important de s'intéresser à tous les états liminaires, voire extatiques, et d'une manière générale aux états modifiés de conscience, si l'on veut être à même de saisir cette même conscience dans son fonctionnement habituel. Vous avez même suggéré, professeur, de créer une science de l'étrange. Aujourd'hui, justement, la première partie de cette matinée que vous présidez sera donc consacré à des exposés de Bertrand Meheust, du Père Holtz et du docteur Jourdan sur un certain nombre de situations qui nous frappent par leur étrangeté et pour lesquelles aucune explication incontestable ne peut être donnée. Effectivement, nous ne savons pas encore expliquer notre spiritualité, les états méditatifs, voire extatiques, ou encore le pouvoir des médiums, par exemple. Et pourtant, nous avons réalisé des progrès considérables dans le domaine scientifique au cours de ces dernières années, et notamment en neurobiologie, en physiologie, comme l'a brillamment exposé le professeur Pierre Buzer lors de la première partie de notre colloque, et comme le montrera également Pierre-Marie Lédo dans la deuxième partie de cette matinée, qui sera présidée par le professeur Buzer. Puis, toujours dans la deuxième partie de cette matinée, monsieur Jean-François Housset interviendra pour nous proposer une approche scientifique élargie, pour tenter de mieux rendre compte de l'origine et de la nature de la conscience. Car force est de constater que les forces agissantes de la vie ne s'expliquent pas par les seules lois matérielles connues et qu'il est important de rechercher dans ce domaine également de nouveaux modèles. Alors nous poursuivrons bien entendu en septembre, octobre, notre cycle de conférences sur la conscience sous ses aspects physiques et biologiques, mais aussi dans sa dimension morale et son influence dans le domaine social, politique et juridique, sachant que à ce sujet, l'approche politique et sociale actuelle apparaît encore bien rudimentaire. Elle est fondée, nous l'avons vu, sur des postulats pour l'essentiel dépassés ou en tout cas insuffisants et qui, au lieu de se compléter, s'opposent. Il est donc urgent de rechercher des pistes pour la faire évoluer. C'est ce que nous nous attacherons à faire à la rentrée et nous vous communiquerons début septembre les prochaines dates de réunion. Voilà, je vous remercie et je m'empresse de donner la parole au professeur Jean Béchler pour la première partie de cette matinée.
Merci, madame. Je n'ai pas à prendre la parole, sinon pour la donner immédiatement aux différents orateurs. Je voudrais tout de même insister un peu lourdement sur ce que vous avez dit. Notre propos n'est pas de nous occuper du paranormal et de l'étrange. Notre propos est de nous occuper de l'être humain. Dans ce cadre-là, nous avons isolé le problème de la conscience et il nous est apparu qu'il ne serait peut-être pas mauvais de commencer par un bout, et ce bout-là étant les états modifiés de conscience, et parmi ces états modifiés de conscience, ceux dont nous nous entretenons ce matin. Donc, c'est même très important. Mais d'un autre côté, nous pensons, ou je pense en tout cas, que ces questions sont des objets d'enquête rationnelle légitime. et non pas à être mis de côté sous prétexte d'irrationalisme. Non, ce sont des phénomènes humains, donc ils ont le droit, si j'ose dire, d'être étudiés sérieusement. Et c'est ce que nous essayons de faire la fois dernière et surtout aujourd'hui. Et c'est Monsieur Méheu qui, le premier, va parler très sérieusement de choses très réelles. Monsieur Méheu, vous avez la parole.
Quelques instants avant de commencer à développer mon propos, je vais vous dire comment je suis venu à m'intéresser à ces questions, ce compte tenu de la nature précisément de ces questions. Je faisais de la philosophie, mais j'ai fait une thèse de sociologie qui avait pour centre un conflit dans la pensée, c'est-à-dire l'histoire, le conflit qui a opposé pendant près d'un siècle l'Académie de médecine, l'Académie des sciences et le mesmérisme. Donc j'ai étudié ce conflit sous tous les angles. Et au bout d'un moment, il m'est apparu qu'on pouvait pas faire une étude sérieuse de ce conflit en se lavant les mains de ce qui était au cœur de celui-ci, c'est-à-dire la question des pouvoirs dimagnétiques. Donc j'ai été amené à faire l'hypothèse que ces pouvoirs pouvaient être réels, au moins dans certains cas, sinon la question était vidée d'avance. C'était même plus la peine de continuer l'enquête, si ce n'est pour répéter ce que l'on dit depuis très longtemps. Et puis, de fil en aiguille, je me suis aperçu que je me suis enfoncé dans ce sujet et j'ai tenté de me faire l'historien de la métapsychique. Voilà, c'est l'histoire que j'ai suivie. Alors, aujourd'hui, je vais attaquer la question sous un angle bien particulier. Je vais tenter d'articuler deux approches qui, habituellement, sont présentées de façon disjointe, mais qui prennent une dimension nouvelle lorsqu'on les met en rapport. Alors, ces deux dimensions, ce sont d'abord les phénomènes liés à la conscience modifiée, d'une part, et d'autre part, les phénomènes dits paranormaux. Alors, par paranormal, vous devrez toujours entendre de très gros guillemets. Je ne peux pas les dire par le son de ma voix. Il est bien évident que cette notion est relative à nos connaissances. Mais bon, c'est le terme qu'on a l'habitude d'employer. Moi, personnellement, par exemple, lorsqu'il s'agit des pouvoirs cognitifs, je préfère parler de métagnomie, les pouvoirs métacognitifs. Mais bon. Alors, ces deux phénomènes sont liés parce que la production des premiers semble très souvent la condition de la production des seconds. C'est-à-dire que les phénomènes dits paranormaux se manifestent pas uniquement, mais très souvent, à la faveur d'états de conscience spéciaux, d'états de transe, et qui peuvent eux-mêmes être provoqués ou bien être suscités et canalisés. Donc, il y a là une clé. Quelle que soit la nature ultime de la conscience d'une part, quelle que soit la nature ultime des phénomènes dits paranormaux d'autre part, il est essentiel de savoir qu'il y a une liaison. Il semble que ces phénomènes, les phénomènes dits paranormaux, se produisent beaucoup plus facilement lorsqu'il y a une modification du régime de la conscience. Alors, la signification de cette corrélation n'est pas encore comprise en profondeur, mais c'est un point central de la discussion. Alors, ce n'est pas, en fait, une découverte nouvelle. Les hommes de l'Antiquité le savaient à leur manière. Et c'est pourquoi ils ont mis en place ce que l'on appelle en anthropologie des dispositifs pour capter et canaliser ces états de conscience producteurs de phénomènes métacognitifs. C'est le rôle de l'institution divinatoire dans les nombreuses cultures qui ont développé cette institution, particulièrement en Grèce pour ce qui concerne la culture occidentale. Alors ceci dit, il faut qu'il y ait un point sur lequel je dois dès maintenant attirer votre attention. Parce que il est souvent ignoré et mal compris. Le fait que les états modifiés de conscience et les phénomènes paranormaux soient liés n'implique nullement qu'il faille les confondre. Pour les parapsychologues contemporains, l'étude des états modifiés de conscience constitue une branche de la psychologie. Une branche certes encore en développement, certes encore en but à de nombreux rejets, mais une branche de la psychologie. Et elle ne relève pas de la réalité paranormale stricto sensu. À leurs yeux, il ne faut pas confondre ces états de conscience et les phénomènes dont ils suscitent ou facilitent la production. Par exemple, je reviendrai sur ce voyant si j'ai le temps, c'est un de ceux que j'ai étudié. Lorsque le voyant Alexis Didier, au XIXe siècle, ce fut un des grands voyants dits magnétiques, se porte en état de transe sur une cible et en ramène des informations vérifiables, dans des conditions évidemment contrôlées. Il doit au préalable donc passer par un état de conscience particulier, qui est appelé à l'époque le sommeil magnétique. Alors, pour les parapsychologues, ce n'est pas l'état de transe qui est qualifié de paranormal, mais la faculté métacognitive qui s'y déploie. Alors, faculté qui relève d'un concept spécial sur lequel je vais revenir. Autrement dit, nous avons deux dimensions emboîtées l'une dans l'autre, également rejetées par la rationalité occidentale, mais pas au même niveau. C'est comme une énigme dans l'énigme, en quelque sorte. Alors, les phénomènes de la conscience modifiée commencent à être pris en compte, encore que timidement, mais les phénomènes dits paranormaux, en France tout du moins, n'ont toujours pas d'existence officielle. Je dis bien en France tout du moins, c'est une situation très française. Je dois préciser que dans le monde anglo-saxon, de nombreuses universités, dont je pourrais vous faire la liste, ont intégré dans leur département de recherche la parapsychologie, dans le Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne bien sûr, en Hollande, etc., etc. La France se signale par son rejet de ces choses. Si vous regardez par exemple la liste des objets officiels de la recherche au CNRS, vous ne trouverez pas mention de cette réalité, pour prendre cet exemple. Alors, je prends un exemple que je vais emprunter à l'exégèse, un domaine qui m'intéresse un peu, justement, en tant que métapsychiste. Aujourd'hui, les historiens recherchent sur le Jésus de la théologie, le Jésus concret. Et certains, je pense à Marcus Borg, par exemple, ou Stephen Davis, s'ouvrent à l'idée d'un Jésus guérisseur et chaman. Mais on n'en est pas encore au Jésus thaumaturge. Oui, ces dimensions sont emboîtées les unes dans les autres, mais le rejet qui pèse sur elles n'est pas exactement le même. Bien, ces précautions prises, je vais aborder un certain nombre de définitions qui me paraissent indispensables pour comprendre ce dont je parle, compte tenu donc du rejet dont cette dimension est la victime, du fait que, par exemple, la parapsychologie ne s'enseigne pas. Le savoir que l'on acquiert sur ces questions, on le fait à titre personnel, à la suite d'une démarche individuelle, mais vous n'y recevrez nulle part dans l'université française, si ce n'est par des biais indirects, une information sur ces questions. Alors, il faut distinguer d'abord les sciences psychiques, la métapsychique et la parapsychologie. Les sciences psychiques, si vous voulez, c'est le tronc. La métapsychique et la parapsychologie, ce sont deux branches du tronc, pour simplifier. Les sciences psychiques, c'est l'effort de prise en compte, dans une démarche de type scientifique, des phénomènes que l'on a observés dans le mesmérisme et puis dans le spiritisme. Les sciences psychiques naissent en Angleterre, à Cambridge, sous l'influence d'un philosophe anglais, Henry Sidgwick, et aussi de Frederick Myers, psychologue également de Cambridge. Donc ça ne naît pas dans le ruisseau, elles naissent exactement au Trinity College de Cambridge. Ensuite, ça va se déployer en France, en Angleterre, en Europe, etc., etc. Alors, les deux branches sont la métapsychique et la parapsychologie. Je commence par la métapsychique. Elle a été fondée en 1919 par le prix Nobel de physiologie Charles Richer, dans le but, évidemment, d'une approche scientifique de ces phénomènes, mais sous un angle qualitatif. Il s'agit d'étudier des sujets doués, des médiums, des gens qui produisent des effets macro, ce qu'on appelle du macropsy, c'est-à-dire des phénomènes visibles dans notre expérience, de façon frappante, dans leur contexte culturel, etc. C'est-à-dire il s'agit de respecter l'écologie des sujets. Donc cette démarche s'inspire de celle des éthologues, elle croise celle de l'éthologue, comme l'a dit Bergson dans une remarquable conférence où il synthétise les concepts de cette approche en 1913. Il s'agit de synthétiser en quelque sorte la démarche de l'éthologiste et du juge d'instruction, car il ne s'agit pas de céder sur le contrôle. Simplement, il s'agit de laisser les phénomènes se produire dans le contexte, en respectant les croyances des gens. Vous êtes spirite, très bien, pas de problème. C'est à nous de faire en sorte que le contrôle soit respecté et faites ce que vous savez faire. On conteste pas. Donc cette démarche implique évidemment une connaissance historique, culturelle, etc., des conditions de production de ces phénomènes, de leur contexte, et ainsi de suite. L'autre branche, c'est la parapsychologie anglo-saxonne, qui est devenue hégémonique, surtout par l'hégémonie du monde anglo-saxon. Donc il s'agit d'étudier ces phénomènes en laboratoire, en les pliant aux exigences du laboratoire, en les épurant. Et là, cette fois-ci, on n'étudie pas les phénomènes qualitatifs, l'approche est quantitative, statistique. Elle a été fondée par l'Américain Rhine. Voilà. Ces deux branches sont parfois conflictuelles, mais en même temps complémentaires. Alors, pour ce qui concerne le sujet que je traite aujourd'hui, c'est l'approche métapsychique qui est plus apte à prendre en compte l'articulation entre les phénomènes de conscience modifiée et les phénomènes parapsychologiques, puisqu'elle prend en compte la dimension de la culture et de l'histoire. Voilà. Ça me paraissait indispensable de préciser ces données. Alors, un autre concept dont il paraît important de vous entretenir, c'est celui de psy. C'est le concept qu'utilisent le plus souvent les parapsychologues. Bien que rien n'est simple, il est discuté à l'intérieur même du domaine de la parapsychologie, bien entendu. Alors, psy, il s'agit de la lettre grecque. Hein. Alors, c'est un concept qui a été proposé en 1942 par un philosophe américain qui s'appelle Robert Thouless. Je ne sais pas comment on prononce. T-H-O-U-L-E-2-S. Alors, il se proposait, Thouless, en proposant ce terme, de un triple but. Il proposait de subsumer et de classer sous une même catégorie l'ensemble des phénomènes dits paranormaux. Il voulait, deuxièmement, les dégager d'un vocabulaire surchargé de connotations et de thèses implicites, comme par exemple la notion d'âme. Donc, toutes ces notions portent avec elles une charge historique très complexe. Donc, il a exprès pris un terme, une lettre, comme ça, pour, croyait-il, se dépayser complètement. Il se trouve que, curieusement, psy entre en résonance avec psy, avec un Y. Et que, justement, ça évoque un conflit qu'il y a entre les parapsychologues et les psychanalystes quant à l'exploration de ces phénomènes. Mais je pense que c'était pendant son idée de renvoyer à ce conflit. Enfin, il s'agit de suggérer pour Thouless que l'ensemble des phénomènes paranormaux sont des facettes différentes d'un pouvoir unique, ce qui peut être un présupposé. Alors, ça permet un classement des phénomènes. Il y a deux sortes de psy, pour aller vite. Il y a le psy réceptif, celui dans lequel se manifestent les pouvoirs métacognitifs, qui sont la télépathie, la clairvoyance et la précognition, et la rétrocognition. Je parle des phénomènes ramenés dans leur essence, bien entendu. Et il y aurait le psy projectif, c'est toute forme d'interaction directe sur la matière. Il y a la psychokinèse, la biopsychokinèse, etc., etc. Par exemple, quelqu'un qui va déplacer un objet, tordre une cuillère, affecter un objet matériel, sous une quelque forme que ce soit. Alors, il y a des phénomènes qui sont mixtes, qui appartiennent aux deux champs. Par exemple, les phénomènes produits par Ted Serios, qui était capable de faire une forme de télépathie très particulière. Il était capable de reproduire sur une plaque photographique un objet, l'image d'un objet qu'on lui présentait dans une boîte scellée. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois transmission de l'information et action sur la pellicule. Alors là, on est vraiment dans quelque chose d'extraordinairement complexe, vertigineux même. Alors, il ne faut pas perdre de vue que le psy est un concept, une abstraction, et que nulle part, jamais, il ne se donne à l'état pur. Toujours, elle manifeste à travers une culture, il prend le visage du lieu et du temps, et de ce fait, régulièrement, des visages nouveaux. Par exemple, les phénomènes de torsion de cuillère qu'on a observés au XXe siècle, vous les chercherez en vain dans l'Antiquité. On ne le connaît pas dans sa pureté, on le connaît à travers une opération de réduction. Alors maintenant, à partir de là, je vais prendre ce fil conducteur pour la suite de l'exposé. Dans toutes les sociétés, les états modifiés de conscience et les phénomènes psy qui les accompagnent régulièrement se manifestent sous deux formes fondamentales. Ils peuvent être spontanés, ils peuvent être, entre guillemets, captés, suscités, canalisés par un dispositif. Et cela aussi bien pour le psy intellectuel que pour le psy projectif. Mais malgré cette dualité fondamentale, les différences peuvent être considérables selon le type de société auquel on a affaire. Alors pour simplifier, nous allons distinguer les sociétés prémodernes et la société moderne et contemporaine. Et nous allons distinguer les modalités de l'accueil dans ces sociétés du psy spontané et du psy capté. Alors le psy spontané dans les sociétés traditionnelles est également abondant, comme dans la nôtre. Mais si la différence qui le sépare de ces manifestations dans notre société aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas décalé par rapport à la culture dominante, ou du moins qu'il est beaucoup moins décalé. Les formes qu'il accepte sont, si vous voulez, acceptées par tout le monde, en fait, en général. Je prends un exemple. En 544, alors qu'Édesse est assiégée par les Perses, un évêque a la vision, en rêve, du lieu où se trouve cachée une relique qui avait fait la gloire de la ville et qui avait été égarée ou perdue quelques siècles auparavant lors d'une précédente invasion perse. Certains chercheurs aujourd'hui ont des raisons de penser qu'il s'agissait de ce qu'on appelle aujourd'hui le sphère de Turin. Je ne vais pas entrer dans cette discussion. Donc, il a la vision de cette cachette qui est dans les murailles de la ville et on y découvre là l'objet sacré. Alors, évidemment, aujourd'hui, on dirait que c'est une légende. C'est pas si simple. Nous savons aujourd'hui que des voyants, que des clairvoyants sont capables de trouver des objets archéologiques et de diverses manières, y compris à travers des rêves prémonitoires. Il y a des phénomènes très bien étayés. Donc il n'est pas évident, a priori, qu'il s'agisse d'une simplement d'une légende. Mais voilà, vous avez là une modalité tout à fait frappante, si le phénomène est réel, c'est à prendre avec, évidemment, cette hypothèse. Donc nous avons là une modalité de la manifestation du psy spontané dans une culture prémoderne. Un rêve prémonitoire va vous indiquer où se trouve une relique, un objet sacré. Alors, dans tous les cas, le psy prend le visage du temps. Il ne choque pas comme il choquerait pour nous. En revanche, dans les sociétés modernes, l'expérience psy spontanée se manifeste par effraction et est totalement décalée par rapport à la vision dominante du monde, ce qui la rend plus traumatisante et plus difficile à intégrer, et pour ceux qui la vivent, et pour ceux qui l'étudient. Alors, sa manifestation la plus lourdement intégrée est attestée, et c'est un certain type d'expérience, en général visionnaire ou onirique, ou psychomotrice, qui affecte une personne dont un proche est en train de mourir. Entendons-nous bien, en train de mourir alors qu'on ne le sait pas, victime d'un accident. Parmi les faits que j'ai bien attestés, que j'ai étudiés, il y a l'histoire d'une femme qui ne savait pas que son mari était sur le Titanic. C'est une histoire tragique d'ailleurs. C'était un couturier d'origine tchèque qui vivait à Nice et qui, à la suite d'un conflit avec sa femme, décide de se sauver aux États-Unis avec ses deux enfants, sans, à l'insu évidemment de son épouse qui ne savait pas où il était parti. Donc il disparaît avec les deux enfants. Il s'était inscrit sur le Titanic et il avait disparu depuis plus d'un mois. Et pendant la nuit du naufrage du Titanic, la Française voit son mari qui avançait dans une sorte de coursive et il était blême, hagard, et il lui tend un faire-part de deuil. Et à ce moment-là, elle voit la coursive qui se met à basculer, à s'incliner. L'homme glisse dans la coursive. Elle va découvrir plus tard que son mari figure dans la liste des victimes du Titanic, et elle va découvrir la photo de ses enfants dans le New York Times, les enfants qui avaient été recueillis et dont on n'arrivait pas à retrouver les parents. Voilà un très beau cas. Le gamin en question, d'ailleurs, était devenu un professeur de philosophie de l'université de Nice. Il est mort il y a quelques années. Je vais vous citer un autre cas, tout simplement, puisé dans ma famille. Je le fais exprès parce qu'en fait, si vous grattez, vous allez vous apercevoir que tout le monde connaît quelqu'un à qui c'est arrivé. Dans toutes les familles, il y a un phénomène de ce genre. Donc ma grand-mère maternelle était une réfugiée belge de la guerre de 14. Et en 1954, elle va en Belgique pour assister à l'agonie de sa mère, donc de mon arrière-grand-mère, avec mon grand-père. Elle était en train d'assister à l'agonie de sa mère quand une sorte de pulsion irrésistible l'oblige à rentrer en France. Elle n'a pas de représentation visuelle, elle n'a pas d'idée particulière sur les raisons qui la poussent à faire cet acte extraordinairement choquant. Mais il faut qu'elle le fasse. C'est une impulsion motrice. Mon grand-père ne peut pas résister, il rentre en France. Et le lendemain, ils apprennent la mort accidentelle de mon père, c'est-à-dire du gendre de ma grand-mère. Mon père n'avait pas un métier dangereux, c'était un accident imprévisible. Donc c'était prémonitoire en plus. Alors, ici, vous avez une modalité qui est psychomotrice. Alors, si on essaie de serrer la gamme des événements mentaux à travers lesquels se produisent ces phénomènes prémonitoires, on peut trouver la liste suivante. D'abord, ça peut toucher une personne qui est traversée par une idée. Il n'y a pas là d'état de conscience modifié apparemment. Il y a intrusion inexplicable d'une idée. Un tel est mort. Ou un tel est gravement malade. Ou il faut que j'appelle un tel. Ça, c'est la première chose. Dans d'autres cas, cette idée se manifeste par une impulsion psychomotrique irrésistible et immotivée. C'est le cas de ma grand-mère que je viens de vous raconter. Dans d'autres cas, par une expérience visionnaire qui se superpose à la conscience de veille. Alors pendant le naufrage du Titanic, il y a eu toute une gamme de gens qui ont eu cette expérience, qui ont été recueillis et bien étudiés par les psychologues, les parapsychologues anglo-saxons. Donc vous êtes en train de vaquer à vos occupations, et d'un seul coup, il y avait une sorte de vision qui se superpose sur la réalité quotidienne, et vous voyez une personne ensanglantée, ou vous appelant à l'aide, etc. Et donc ça correspond à l'heure. Ça peut être avant aussi, ce qui est plus troublant. Et enfin, et c'est le cas le plus fréquent, ça peut se produire pendant un rêve. Et donc là, on est en plein dans la dimension, si vous voulez, puisque le rêve est une des manifestations des états modifiés de conscience. C'est le cas du Titanic, il y a de très nombreux cas de ce genre. Alors, il faut insister sur ce point, ces phénomènes sont très fréquents. Tout le monde connaît quelqu'un qui connaît, etc. Les premières études statistiques qui ont été faites par les Anglais, par le groupe de Cambridge, par Myers, Podmore, Gurney, vers 1900. Ça donnait déjà des résultats écrasants. Si on faisait une étude aujourd'hui avec les moyens dont on dispose, on pourrait recueillir une quantité absolument énorme de documentation là-dessus. Ça, c'est la manifestation du psy spontané. Il y a une autre forme de psy spontané, c'est celui qui affecte les objets. C'est ce qu'on appelle un poltergeist. Donc, dans l'environnement d'une personne, les objets se mettent à vivre leur vie propre, les ampoules explosent, les objets disparaissent, se mettent à voler, etc., etc. C'est un phénomène bien connu des parapsychologues, et les archives historiques montrent que c'est connu depuis l'Antiquité. Alors, bien entendu, avant, expliqué par les démons, et ainsi de suite. Ensuite, j'en arrive à l'idée du psy capté et canalisé par un dispositif. Un dispositif, c'est un concept très important de l'anthropologie, de même qu'une centrale atomique est un dispositif qui permet d'extraire l'énergie de l'uranium pour l'utiliser à des fins industrielles, de même un dispositif permet de capter, de canaliser les énergies psychiques, les affects, les représentations, etc., dans une direction particulière. Alors, l'exemple le plus frappant, c'est l'institution divinatoire dans les sociétés où la divination joue un rôle important, particulièrement en Grèce. Pour ce qui concerne notre propos, on peut se représenter les pratiques divinatoires comme formant un spectre. À un bord du spectre, on aurait les pratiques divinatoires purement déductives, comme celles qui sont en honneur, mettons, chez les Babyloniens, avec la lecture des entrailles des animaux, chez les Chinois avec la lecture des écailles de tortue, etc. Au milieu de ce spectre, on aurait des pratiques mixtes, où il y aurait à la fois des pratiques déductives et des pratiques directes. Et enfin, à l'autre bord du spectre, on aurait les pratiques divinatoires qui supposent le passage par un état de transe et débouchent sur une vision directe. Alors, l'exemple le plus connu, c'est la Pythie de Delphes, etc., etc. Donc, ce sont les formes les plus récentes de la divination. Alors, il est frappant de constater qu'en Occident, ce sont ces pratiques-là qui vont ressurgir au XVIIIe et XIXe siècle avec le mesmérisme, et que les pratiques déductives vont complètement disparaître. Il est également frappant de constater que les universitaires qui étudient les pratiques divinatoires s'intéressent surtout aux pratiques déductives et pas du tout aux pratiques directes. Alors que les métapsychistes, bien entendu, ne s'intéressent absolument pas aux pratiques déductives et exclusivement aux pratiques directes. Et évidemment, parce que là, ils voient des matériaux qui sont très riches et qui surgissent directement. Alors que les autres se débrouillent pour ne pas être mis en contact avec des matériaux trop dérangeants. Enfin, c'est un point de vue de métapsychiste. Je vais conclure. Alors, dans le monde moderne, les dispositifs de régulation traditionnels ont disparu, mais les phénomènes paranormaux continuent d'être pris en charge dans des poches de résistance où l'on sait cultiver des états de conscience appropriés à leur production, une sorte de biotope, hein, pour reprendre l'expression du philosophe canadien Ian Hacking, des sortes de biotopes où ces états de conscience continuent d'être cultivés et où on peut produire les phénomènes. Alors, je cite ces biotopes. Le plus important, le premier, c'est le mesmérisme, à partir de 1775, puis surtout à partir de 1784, avec la découverte du somnambulisme artificiel par le marquis de Puységur. C'est là que va se constituer tout le corpus qui va donner naissance aux sciences psychiques. Ensuite, à partir de 1850, en gros, vous avez le spiritisme qui débarque des États-Unis et qui donne lieu à une nouvelle forme de pratique qui est ce qu'on appelle à l'époque la médiumnité. Donc les médiums sont des gens. La différence entre un somnambule magnétique, c'est qu'il a une vision directe de la réalité vers laquelle on le dirige, tandis que le médium spirit est obligé, si vous prenez une image contemporaine, de passer par un relais satellite, c'est-à-dire par une entité réelle ou fictive, peu importe. Un décédé, un guide imaginaire. Bon. Et enfin, vous avez les sciences psychiques, et particulièrement la métapsychique des années 20 et 30, qui va travailler avec des médiums extraordinaires, dont certains ne sont pas spirites d'ailleurs, comme la fameuse médium américaine Leonore Piper, comme Kluksky, comme Osowiecki. Il est très intéressant de remarquer que les plus grands médiums de la métapsychique des années 20 et 30 sont en général des Russes ou des Polonais, comme si ces phénomènes avaient survécu davantage dans les pays de l'Est. Je vous laisse méditer sur ce point. Voilà, donc ces poches de résistance, de dissidence, par moments gonflent, augmentent, jusqu'au point d'inquiéter la rationalité dominante. Ça a été frappant à la charnière des deux siècles, vers 1900 en France. Puis elle régresse, etc. Mais ça semble une donnée structurelle de l'esprit humain et il semble qu'elle ne puisse pas disparaître. Donc c'est dans, si vous voulez, les métapsychistes, pour être bien clair, ne sont ni spirites ni quoi que ce soit. Ils considèrent ces biotopes comme le terrain avec lequel ils doivent interagir pour étudier leur objet. Voilà, je vous remercie.
Canal Académie vous a proposé cette retransmission de ce deuxième colloque intitulé « Les états modifiés de conscience ». Vous avez pu écouter l'intervention de Bertrand Méheux, historien, sociologue et philosophe, membre du comité directeur de l'IMI, l'Institut Métapsychique International. Son propos était intitulé « Les états modifiés de conscience et les phénomènes paranormaux dans l'histoire sous le regard de la métapsychique ». Je vous rappelle que ce colloque était organisé par l'association Être Humain et avec le concours de l'Académie des sciences et de l'Académie des sciences morales et politiques. Nous vous invitons à écouter la première partie de ce cycle de colloques enregistré en mars 2012 et dont le thème portait également sur les états modifiés de conscience.